Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel Fadel.
L'armée israélienne a annoncé avoir pris le contrôle du point de passage de Rafah du côté palestinien situé entre la bande de Gaza et l'Égypte. On fait le point de cette opération d'envergure et de la situation entre Israël et le Hamas qui continue de s'envenimer avec Ferry de Kerckhove, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, Indonésie et ex-haut commissaire au Pakistan. Monsieur de Kerckhove, bonjour.
Bonjour Yasmine, comment ça va?
Ça va très bien. Quand même, les images que l'on voit à Rafah, à Gaza, sont inquiétantes. Israël n'a visiblement pas écouté ses alliés, au plus haut chef, les États-Unis, lui disant de ne pas aller à Rafah.
Premièrement, Netanyahu n'écoute jamais qui que ce soit. La seule chose qui l'intéresse, c'est de regarder le pouvoir. Or, comme vous le savez, avec Smotrich et Ben-Gvir, les fascistes de son gouvernement, eux, ils avaient carrément dit à Netanyahu, si tu veux continuer à être à la tête du gouvernement, il faut que tu déboules le Rafah. C'est essentiellement ce qu'il a fait. Alors avec ça, il y a eu l'imbroglio un peu compliqué, la confusion qui, d'après moi, était passablement délibérée pour mettre en doute un peu le Hamas qui estimait qu'ils allaient accepter un plan qui n'était pas très très différent de celui qui avait été proposé au départ ou entériné en tout cas par Blinken et puis ensuite. Alors il y a visiblement, l'idée fondamentale dans cette affaire, c'est que Netanyahu voulait avant tout rentrer dans Rafah pour en découdre une fois de plus avec le Hamas dans cette région surpeuplée et déjà martyrisée, avec en plus évidemment la possibilité de s'installer, parce que c'est vraiment s'installer dans le corridor qui est entre Gaza et l'Égypte et qui a d'ailleurs suscité déjà une réaction assez virulente de la part de l'Égypte en disant que ça mine même les accords qui remontent à plusieurs années entre l'Égypte et Israël quand ils ont conclu tous leurs traités de paix, etc. Alors, la situation est loin d'être facile.
Ce qui veut dire qu'Israël cherche finalement à agir comme une zone de tampon, ne pas permettre finalement un échange naturel entre Gaza et l'Égypte et s'installer entre les deux territoires. Est-ce que vous pensez qu'Israël va finir par se retirer de ce territoire éventuellement?
C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par dire que Israël veut reconquérir la totalité de Gaza et trouver une façon de se débarrasser des gazouillis qui y restent. Le plan est très clair. En ce qui concerne cette bande qui fait à peine une quinzaine ou une trentaine de mètres de largeur tout du long, l'idée c'est pas tellement de récupérer ça, c'est de s'y installer, alors que les accords entre l'Égypte et Israël disent que c'est une zone no man's land à toute fin pratique. Et donc, c'est pour ça que les Égyptiens et d'autres, j'espère, vont s'insurger contre ça, parce que c'est un des éléments fondamentaux qui a mené, comme vous le savez, à la création du MFO, Multiple Force Observer, dans le Sinaï, que j'ai visité moi-même parce qu'il y avait un contingent canadien quand j'étais ambassadeur. Alors, si vous voulez, c'est vraiment un encrochement sur les accords et les traités. Alors, c'est pour ça que tout ça est extrêmement difficile. L'histoire de l'acceptation de Hamas ou la non-acceptation, parce que ça ne correspondait pas exactement au petit plan du père Netanyahou, faut pas charrier. Il y avait peut-être des virgules ici et là, mais le fond de l'accord restait le même. Bon, c'est clair que c'était pas une fin de conflit, c'était une trêve, parce que Netanyahu ne pourrait pas accepter un cessez-le-feu pour des raisons politiques intérieures, parce que s'il accepte un cessez-le-feu à ce moment-là, il n'y a pas de combat, et donc il peut recommencer à être traduit en justice. Alors, tout ça est un petit peu mélangé, et malheureusement, ce sont les pauvres gazouis qui en souffrent de plus en plus, et on a vu ça d'ailleurs déjà dans les bombardements depuis ce matin.
On voit cette offensive à Rafah, mais on voit aussi un silence un peu gêné des États-Unis. D'ailleurs, on apprenait dans le Wall Street Journal que les États-Unis ont retardé la livraison de certains matériels, du matériel militaire, notamment des bombes à guidage. Et on voit aussi ce qui se passe dans les campus américains. Est-ce que Joe Biden est pris entre le marteau et l'enclume et ne sait plus à quel sens se vouer?
Je vous dirais de façon légèrement différente que comme Biden ne réussit pas à imposer le moindrement son point de vue à Netanyahou, qui se rit de lui, avec l'impact politique que cela donne dans la rue des États-Unis, on l'a vu, la situation de Biden était plutôt fragilisée par ce conflit et par l'attitude d'Israël. Or, vous remarquez que l'Arabie saoudite a commencé à parler de génocide, ce qui était la première fois qu'il en était question. D'un autre côté, est-ce que en termes d'approvisionnement, parce qu'avec la bataille de Rafah, vous n'avez plus de camions qui rentrent là-dedans, donc la famine va augmenter, sauf que les Américains soutiennent que le ponton qu'ils sont en train de créer sur le bord de la rive de la mer va réussir à faire entrer plus que les 200 camions. Avant que tout ça ne soit opéré, laissez-moi dire qu'il y aura encore énormément de victimes. Alors, si vous voulez, pour approfondir sur votre question, Biden est terriblement fragilisé, d'autant plus qu'il soutient Israël, contre lequel le monde se tourne de plus en plus de façon très, très négative. Alors, il n'y a rien de très évident pour eux, et je ne sais pas dans quelle mesure, sur le plan politique, M. Biden va s'en sortir. Et vous avez d'un autre côté Trump, qui heureusement fait face à cette espèce de procès absolument ahurissant à New York, ce qui fait que les deux prétendants à la couronne américaine sont tous les deux dans le pétrin, sauf que je crois qu'en ressortant de là, Trump sera peut-être en meilleure posture que Biden, parce que Biden a quand même perdu un grand nombre de son électorat qui, comme on l'a vu lors des primaires, avait dit « no name », c'est-à-dire personne plutôt que de voter en faveur de Biden. Donc la situation est passablement difficile, et sur le plan militaire, là encore, compte tenu de la densité de la population, les deux brigades israéliennes qui sont rentrées dedans, essayer de faire sortir la population dans ces conditions-là pour aller d'une zone dangereuse à une zone affamée, il n'y a pas beaucoup à se féliciter de ce qui se passe.
Il y a ces rumeurs quant à un éventuel mandat d'arrestation envers Benjamin Netanyahou. On en est rendu où dans cette histoire? Est-ce que c'est crédible tant qu'à vous?
C'est-à-dire, vous aviez la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, vous avez ces différentes instances, et on sait que, par exemple, le père Poutine ne peut pas se balader partout parce que lui, il a été intenté dans ce domaine-là, quoique Poutine s'en fout comme de l'an 40. Je ne pense pas que ça va aboutir parce que, d'une manière ou d'une autre, je ne crois pas que la décision sera définitive et empêchera Netanyahou de se balader. Les Américains feront tout ce qu'il faut pour éviter que ça ne se produise. Mais c'est quand même assez énorme de voir que le chef de la démocratie israélienne se retrouve en butte contre la cour, les différentes cours, notamment la Cour pénale internationale. Mais de toute façon, comme Israël n'a pas entériné la Cour pénale internationale, ce serait difficile de le traduire en justice.
Israël et le gouvernement Netanyahou, dans une décision unanime, ont finalement mis fin aux activités d'Al Jazeera en Israël et finalement ont tout saisi, tout matériel informatique. Qu'est-ce que ça dit sur le régime de Netanyahou, cette décision-là?
Et ça veut dire qu'il y a différentes définitions de la liberté de la presse. La presse qui vous ennuie, vous la faites taire, et la presse qui vous convient ou qui n'est pas trop dure avec vous, vous la laissez parler. Et vous savez, c'est pas seulement ça qui est terrible. C'est le nombre de journalistes qui ont été tués pendant cette guerre-là, notamment un très grand nombre d'Al Jazeera. Alors c'est vraiment, j'allais dire que c'était la prune sur le sundae, mais négative. C'est vraiment assez épouvantable parce que c'est vrai que Al Jazeera en anglais est plus tame et plus modéré. Al Jazeera en arabe est beaucoup plus virulent, mais ça ne change rien. Les faits que Al Jazeera dénonce par leurs journalistes, elle est simplement réelle et fondamentale.
C'est assez particulier comme histoire, cette guerre-là. Est-ce que vous y voyez, une fin de cette guerre-là quelque part dans les prochaines semaines, prochains mois? Parce que chaque minute qui passe, ce sont des enfants qui meurent affamés, assoiffés, bombardés. Quand est-ce qu'on pourra se dire c'est assez de sang à couler de part et d'autre?
Je vous dirais qu'à court terme, je n'ai absolument aucun espoir positif. Cela dit, le 9 octobre, donc dans les deux jours qui ont suivi l'attaque d'Hamas dans les kibbutz, j'avais dit « c'est une telle horreur que peut-être de là émergera un consensus, une espèce d'unanimité pour créer un État palestinien vivant côte à côte avec Israël en paix et en sécurité. Je sais que je crois que je n'avais pourtant pas bu de champagne quand j'avais dit ça, mais j'ai l'impression qu'on est terriblement loin. Mais quand même, il va y avoir un moment donné où ça va cesser. À quel moment Netanyahou va dire, bon, là, j'ai vraiment décousu tout le Hamas et donc on peut repartir à zéro. Mais repartir à zéro, vu sous l'angle israélien, c'est la réoccupation complète de Gaza. Et comme vous le savez, il y a déjà des entrepreneurs de Tel Aviv qui offrent de la vente de terrain le long de la Méditerranée de Gaza. Alors, c'est vous dire que l'esprit n'est certainement pas à la réconciliation. Alors, c'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'au fond... c'est pas seulement Gaza, c'est en Cisjordanie où il y a eu près de 500 victimes d'agressions diverses des colons ou encore des soldats de Ben Gvir. Alors, nous sommes dans une situation désespérée parce que les États-Unis n'ont plus aucune influence sur, au fond, les décisions de Netanyahou. On peut espérer peut-être qu'un jour Netanyahou sera viré à cause de l'enquête qui se fait sur, au fond, l'insécurité israélienne qui a mené à la facilité de l'attaque malheureuse du Hamas. Est-ce que c'est Benny Gantz qui va prendre le pouvoir? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Mais quand vous regardez les positions de chacun de ces personnalités politiques israéliennes, il n'y en a plus un seul qui parle de deux États vivant côte à côte. Alors, on continue, que ce soit le conflit de Gaza aujourd'hui ou l'expansion de la colonisation, quelle que soit la démarche ou les horreurs qui se passeront, il n'y a pas de progrès sur la solution fondamentale qui est la création de l'État palestinien que l'on attend depuis 76 ans.
Avant de vous laisser, Monsieur de Kerckhove, quel va être l'impact des derniers mois sur les fameux accords d'Abraham qui étaient déjà signés avec les Émirats et qui s'apprêtaient avec le Maroc également? Mais avec l'Arabie Saoudite, on était presque à la signature de l'accord. Est-ce qu'il y aura encore des accords d'Abraham au lendemain de cette guerre?
Alors, la question que moi je me pose dans la même ligne que vous, c'est-à-dire que est-ce que, disons qu'il y ait tout à coup une espèce d'au moins de cessez-le-feu, une paix quelconque ou quoi, est-ce que les Saoudiens vont être suffisamment forts face à, au fond, le délitement dans la région pour dire aux Israéliens, écoutez, là maintenant, vous avez vaincu le Hamas, faisons le pas essentiel de la création d'un État palestinien. Le problème, et il faut être quand même franc, c'est que c'est certain que les pays arabes défendent la cause palestinienne, mais ils ont quand même des intérêts qui transcendent depuis quelques années la volonté d'aider les Palestiniens pour leurs propres intérêts économiques, sociaux et politiques et autres. Or, il est indéniable, parce qu'il ne faut jamais, il ne faut pas tout le temps blâmer Israël pour certaines choses. Non. Israël, sur le plan technologique, économique, culturel et autres, est véritablement un moteur qui pourrait servir admirablement l'ensemble des pays arabes et Israël même elle-même, parce que c'est quand même, comme je le dis toujours, le pays qui a le plus de prix Nobel par pied carré ou par kilomètre carré. Si on n'avait pas Netanyahou, si on n'avait pas le problème palestinien non résolu en faveur des Palestiniens, nous aurions une situation dans le Moyen-Orient qui serait extraordinaire et on accepterait enfin réellement la création de l'État israélien, pour lequel il y a quand même encore certains pays qui ont des réticences, bien qu'ils ne le disent pas ouvertement. Or, il n'y a rien à faire. Israël est dans la région, elle peut être un moteur de l'activité économique, scientifique et culturelle, et pour l'instant, elle est un moteur, malheureusement, de la déconvenue totale. Et c'est là que c'est difficile à comprendre qu'il n'y ait pas un véritable ressourcement du côté israélien. Mais tant qu'on aura des Netanyahou, des Ben Gvir, des Smotrich et des gens comme ça, on n'aura jamais, jamais un État palestinien, parce qu'au fond, même si 25% ou 30% de la population israélienne est totalement favorable à la création d'un État palestinien, ceux-là ne sont plus au pouvoir depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et c'est ça le drame aussi. Alors, on se croise les doigts.
On va se croiser les doigts, les bras et tout ce qu'on a pour que cesse enfin la guerre, ouais. Que cesse enfin les meurtres et la peur tant des Israéliens que des Palestiniens pour leur sécurité, absolument, pour leur intégrité, et la peur des otages qui sont toujours pris à c'est Gaza. Il faut continuer de le rappeler. Ferry de Kerkhove, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, en Indonésie et ex-haut-commissaire au Pakistan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. À la prochaine. Au revoir.